Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Le meilleur de Séance Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Bonjour à tous et bienvenue sur Séance Radio pour ce premier rendez-vous de Fan Footage, le podcast, votre nouveau rendez-vous ciné qui débriefe à chaud les films à l'affiche. Et quand on vous dit à chaud, mesdames et messieurs, on tiendra nos promesses, puisqu'après avoir assisté à une projection, nous passerons le film sur le grill avant d'élargir autour d'une thématique. Vous allez tout comprendre d'ici quelques instants, puisque nous allons parler de Black Panther. Juste le temps pour moi de vous présenter mes petits camarades de jeu, Pierre Delors de Fan Footage. Salut Pierre.
Salut.
Et nous avons avec nous notre invité aujourd'hui, notre spécial guest, Ilan Ferry de Cinévibe. Salut Ilan.
Salut Thomas.
Allez, c'est parti.
Bon, cette mission, c'est quoi ?
Nous sommes donc au Hurling Pub dans le 5e arrondissement de Paris. Nous sortons à l'instant de Black Panther, le 18e film de l'univers Marvel en salle ce mercredi. Le film, pour résumer rapidement, se situe juste après les événements de Civil War, dans lequel le père du prince T'Challa, incarné par Chadwick Boseman, était tué. Ce dernier est donc de retour sur les terres du Wakanda, où il vient prendre place sur le trône, avant de faire face à une menace en la personne de Michael B. Jordan, acteur vu dans Creed, qui était déjà réalisé par Ryan Coogler, qui rejoint donc l'écurie Marvel. Le film est déjà un record de pré-vente aux États-Unis et il récolte aussi 100% de critiques positives sur Rotten Tomatoes alors qu'il n'est même pas sorti. J'ai une question simple, hein, messieurs, vous allez me dire, est-ce que vous soutenez ce chiffre de 100%? Dites-moi tout, je vous écoute. Qui veut commencer? Pierre, vas-y.
Bah écoute, moi je trouve que c'est un point tout à fait intéressant, c'est marrant d'ailleurs de commencer par ça, c'est qu'aujourd'hui il y a toujours des espèces d'emballements critiques américains dès qu'il y a un film qui sort, et en particulier un film de super-héros, c'est soit le plus grand film de tous les temps, soit la plus grosse bouse qu'on ait jamais vue. On est à des scores de 100% sur Rotten Tomatoes ou de 35, quoi. Je sais pas à quel niveau on est Justice League. Et Black Panther, voilà, il démarre à peine. Il y a que la presse qui l'a vu et quelques spectateurs choisis. On est déjà à 100% sur Rotten Tomatoes, comme c'était un film absolument parfait. Donc, on va en rediscuter. Hein. Le film a énormément de défauts.
Oui, d'accord.
Et en fait, il est célébré. Et j'ai l'impression qu'on fait un petit peu l'impasse sur tous les points négatifs du film et qu'on s'intéresse uniquement à ce qu'il représente, et effectivement c'est une avancée sociale et cinématographique certaine, hein, voilà, on va y revenir.
On y reviendra justement, ouais.
Ah bah, je sais pas ce que t'en as pensé Ilan.
Alors, sur le film, moi j'ai été assez déçu en fait. C'est même pas la question de déception, c'est plus que je n'ai pas été surpris.
D'accord.
En fait, c'est-à-dire que Black Panther était un des seuls personnages qui m'intéressait vraiment dans Civil War, c'est-à-dire quand je le voyais, j'avais un sourcil qui se levait, le reste du temps c'était baissé, et je trouvais ce personnage intéressant. Quand j'ai vu les premières bandes annonces, j'ai trouvé qu'il y avait un ton qui était aussi très intéressant, qui semblait un peu aller hors des sentiers battus, et
un peu comme Thor,
ouais, Thor ou à raison, quoi.
Ça c'est vache.
Et au final on se retrouve justement devant une espèce de mix entre Captain America et Thor, avec un background, ouais. Voilà, un folklore pas très bien amené en tout cas.
Bah, moi si je peux me permettre cette expression, mais c'est vraiment un film, je trouve, qui a le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que c'est à la fois un film qui est un peu un grand tournant dans l'univers Marvel et dans sa réception critique. On sent qu'ils ont essayé de faire les choses bien, c'est-à-dire qu'ils sont allés chercher Ryan Coogler, c'est quand même pas n'importe qui.
Ouais.
C'est une des révélations du jeune cinéma afro-américain. On l'avait découvert avec Fruitvale Station il y a quelques années. Mm-hmm. Ensuite, il a réalisé Creed, qui est quand même un spin-off de Rocky, quoi. C'est pas rien, avec toujours Michael B. Jordan qu'on trouve dans Black Panther. Et en même temps, c'est un film qui est prisonnier du cahier des charges et de la charte Marvel. Et en fait, du coup, bah, c'est ça qui le nivelle vers le bas du début jusqu'à la fin du film. Même si, alors, d'après ce que j'ai cru comprendre autour de cette table, je suis peut-être un peu, et pourtant c'est bizarre venant de ma part, étant donné que c'est un film Marvel, je suis un peu celui qui a le, entre guillemets, le plus apprécié le film. Je trouve qu'il y a quand même des bons points. On va peut-être revenir un petit peu là-dessus, parce que le film arrive à accomplir des choses. Hein. Je trouve que pour la première fois, c'est un Marvel où j'ai la sensation, un Marvel depuis ces dernières années, où j'ai la sensation que le réalisateur croit vraiment ce qu'il est en train de faire. Et d'ailleurs, j'ai lu une interview de Ryan Coogler qui disait que c'était pour lui sans doute le film le plus personnel Marvel qu'il ait jamais réalisé, tu vois.
Ouais, alors ça, faut se méfier. Argument marketing, quand tu rejoins l'écurie Marvel, vaut mieux mettre les chances, toutes les chances de ton côté. Et d'ailleurs, je voudrais juste rebondir sur ce que tu disais sur Ryan Coogler, parce que pour moi, c'est. Je peux pas dire que j'en attendais vraiment beaucoup de ce film, mais j'avais quand même de grandes attentes dans la mesure où ce jeune cinéaste a été choisi. Parce que Creed, moi, c'était une des grandes surprises. Il est sorti il y a 2 ans hein, maintenant, ouais, c'est ça.
Deux ans. Ouais.
Et je trouvais qu'il y avait une finesse dans la réalisation. Dans la réalisation, il y avait un côté vraiment opératique par moment même. Et je me dis, mais là, c'est pas possible. Pourquoi enfin, il a été vraiment si bridé que ça. C'est vraiment surprenant parce que ok, le film choisit d'être anti-spectaculaire d'une certaine manière parce qu'il est très bavard. On a allez deux grandes scènes d'action et bon, et c'est pas les meilleures scènes d'action que vous verrez cette année. Mais je sais pas, je m'attendais quand il y a des par exemple.
C'est ça qu'il faut préciser aussi pour ceux et celles qui nous écoutent et qui n'ont pas vu le film, c'est que c'est un film Marvel qui est moins centré sur l'action et le spectaculaire et les CGI et plus sur ses personnages.
Ouais.
Ça veut pas dire qu'il les traite bien. Hein.
C'est ça, c'est-à-dire que centré sur les personnages, ok, mais encore faudrait-il que les personnages soient intéressants, que leurs interactions soient intéressantes. Moi, j'ai eu l'impression de voir un film juste avec des archétypes. J'ai l'impression d'avoir vu juste des mêmes personnages que je vois chez Marvel depuis 10 ans maintenant. Ce que je disais tout à l'heure, Black Panther, pour moi, c'est un mix entre Thor, le côté roi en devenir de Thor, avec la noblesse d'esprit de Captain America, mais qui n'a pas une personnalité à part entière. Ce n'est pas un vrai personnage, c'est un melting pot, si tu veux.
Au niveau des archétypes, tu vois, on sent qu'il est allé essayer de faire quelque chose, de trouver une espèce de dimension classique, c'est-à-dire dans une dramaturgie avec le retour du frère ennemi. Il y a une thématique vraiment classique là-dedans, il y a une mythologie qu'il essaie d'installer, en plus avec une imagerie et des origines et un aspect culturel qu'on n'avait jamais vu dans le blockbuster, et voilà, c'est sûr qu'il faut le saluer. Par contre, il est enfermé dans des codes du blockbuster Marvel ou du code du blockbuster super-héros global qui...
Bah, il a des très très bonnes intentions, puis tout s'écroule sous une dramaturgie vraiment hyper poussive.
C'est long, hein, il y a des belles longueurs. Hein.
C'est 2h15 et on les sent bien passer. Il y a des scènes, je pense notamment à cette scène qui se passe en Corée, qui est maladroitement reprise d'une scène de Skyfall aussi, par exemple.
Honnêtement, moi, je me permets encore d'intervenir, désolé, je coupe la parole à tout le monde. Moi, j'ai été étonnamment surpris par le film en sa première partie. Tout le début, je me suis dit, finalement, c'est pas si mal. En fait, j'ai été relativement investi dans l'histoire. Et voilà, à partir de l'événement qui se déroule en Corée du Sud, on va pas raconter ce qui se passe. Là, j'ai décroché.
Ouais, moi aussi, carrément.
Ouais, non, mais tout à fait. C'est-à-dire que moi, j'ai vu la première partie, je croyais qu'il y avait quelque chose d'intéressant, une espèce de mix entre le film de super-héros et James Bond, qui plus est un James Bond noir. Ça. Symboliquement, c'est très porteur. Il y avait quelque chose de différent. Et puis, juste après, ça dérive vers quelque chose qui est totalement balisé, que tu vas deviner au fur et à mesure. Enfin, tu as toujours un temps d'avance en fait sur le film, et c'est ça qui est très embêtant.
Autre point qui m'a plutôt plu, c'est que pour une fois, c'est pas un film cynique, je trouve. C'est pas un film cynique. C'est pas un film qui est trop méta, même si aujourd'hui le blockbuster US peut pas s'empêcher de faire des gros clins d'œil aux spectateurs. Genre wink wink, t'as compris la référence, mais il n'y en a pas tant que ça. C'est pas Thor 3, justement, c'est pas les derniers films Marvel, c'est pas Ant-Man. Et on sent, c'est peut-être pour ça que Ryan Coogler disait que c'est un film très personnel pour lui, c'est qu'on sent qu'il croit en ce qu'il fait. Il a sans doute porté beaucoup de rêves de son adolescence à lire des comics en étant un jeune noir américain qui a pas sa place dans le cinéma de grand spectacle, malheureusement. Et je pense que c'est là-dessus, tu vois, et ça se sent. C'est un film sincère. Après, bon, voilà.
Et puis c'est assez premier degré par rapport aux autres Marvel qu'on a pu voir avant. Très peu d'humour, il y a très peu de blagounettes, ça se prend. Il y en a peu.
Quand même, hein, c'est ce que je retiens.
Je retiens les blagounettes de
Andy Serkis, c'est un peu là pour faire l'élément comique. Hein. Et Martin Freeman aussi.
Ouais, je l'ai pas vu comme ça, mais on peut dire, parce qu'on voit, Gollum en fait, c'est ça qui est aussi étrange, quand on voit aussi la confrontation entre le personnage d'Andy Serkis et de Martin Freeman, forcément on va penser Gollum contre le Hobbit, enfin contre.
On parlait de cahier des charges, mais je reviens sur l'humour. Je retiens quand même beaucoup d'éléments qui sont quand même très gênants dans la tonalité.
Notamment dans la tribu ennemie, dans les montagnes.
Ouais.
On se regardait un petit peu tous les deux, genre bon. Moi, il y a un truc. Le truc que je retiens vraiment le gros point négatif pour moi, et là j'ai été extrêmement surpris, je trouve que la direction artistique est d'une pauvreté, mais alors.
Oh là là,
c'est dégueulasse. Et franchement, alors il y a quelques éléments qui fonctionnent, tu vois, mais là, on te présente le Wakanda Wakanda comme cette espèce de cité formidable. En fait, on t'explique que le Wakanda, c'est la plus grande civilisation de tous les temps, la plus avancée, la plus belle. Pourquoi pas, hein? Par contre, la ville, la capitale du Wakanda, c'est affreux, c'est dégueulasse, c'est pauvre, c'est gris. Et quand ils essaient de le cristalliser, enfin, de le représenter dans la mise en scène, on voit une espèce d'allée commerçante basique, c'est toujours la même d'un plan à un autre, comme s'il y avait qu'un seul décor, quoi.
Eh ben, moi, elle m'a fait penser à une allée commerçante, je crois qu'il y a dans Thor Ragnarok, il y a une espèce de bazar un peu fluo, et on a l'impression de revoir la même allée, mais sans.
La DA est vraiment, vraiment, vraiment aux fraises, et puis.
Techniquement assez mauvais.
Et pour un film à, je sais pas combien il est, 150, 200 millions de dollars, les effets spéciaux sont parfois totalement à la ramasse. Il y a des écrans verts qui sont horribles. Et en 2018, c'est pas possible, les mecs, quoi.
La bataille finale, on dirait une cinématique.
Ouais.
Mais qui est une cinématique d'il y a 10 ans, quoi.
La bataille finale, c'est le point sur lequel je voulais en venir. C'est-à-dire que, bon, Marvel, c'est pas les rois de la chorégraphie et du filmage de scènes d'action et de scènes de combat. Bon, c'est généralement assez moyen. Il y avait Civil War qui s'en sortait un tout petit peu mieux. Et là, les scènes de combat d'acteur à acteur sont tout à fait banales et à la limite regardables. Par contre, les scènes de combat en image synthèse sont affreuses, quoi.
Mais aussi parce qu'il n'y a absolument aucune affinité entre les personnages, quels qu'ils soient. Si tu veux, que ce soit des personnages qui soient alliés ou antagonistes, on ne sent aucune tension entre eux, on ne sent rien décrit dans leur relation. Ce ne sont même pas des relations. En fait, on voit des personnages, des pantins, si tu veux. Moi, ce que j'ai l'impression de voir, effectivement, c'était des pantins articulés qui étaient en train de batailler.
Oui, ils ont une fonction.
Exactement, c'est un film de figurines, quoi. On a l'impression d'avoir fois de voir des figurines Marvel qui sont en train de se battre.
C'est dur, hein. C'est bien trouvé.
Est-ce que c'est le pire Marvel?
Moi j'aurais
tendance à le classer parmi les pires Marvel, sincèrement.
Ah non, ça peut pas être pire qu'Ant-Man, mec.
Non mais attends, quand tu as je n'aime pas les Gardiens de la Galaxie, enfin voilà.
Ah oui, moi non plus, hein.
Quand tu vois ce que Marvel est capable de produire en termes de divertissement, de spectacle, là c'est pas possible. Là c'est pas possible.
Tu vois, il y a un truc qui me gêne, moi, par rapport à l'univers Marvel, justement, c'est que je trouve que Black Panther, malgré, voilà, je reconnais quelques qualités, malgré toutes les qualités que je peux lui reconnaître, et la sincérité de Ryan Coogler à la réalisation, et je pense l'investissement de Chadwick Boseman dans le rôle principal, je trouve que c'est un film qui est totalement déconnecté du Marvelverse, alors que pourtant c'est un film qui bah, s'inscrit dans le Marvelverse. On est quoi? On est dans la phase 3, non? C'est ça, voilà, phase 3. C'est un film qui sort post-Avengers, post-Avengers 2, post-Civil War, etc. Et il y a quelque chose qui m'a gêné, et en fait j'ai même l'impression que le film n'essaye même pas d'être intégré dans la chronologie Marvel. C'est-à-dire qu'on te dit que le Wakanda, donc c'est la plus grande civilisation, c'est les plus avancés, ils ont une technologie formidable, c'est les meilleurs, Black Panther c'est le plus fort, d'accord. Ils ont choisi de vivre caché, en fait c'est ça le grand truc, de ne pas se révéler à la face du monde. Ils sont au courant en tant que pays du tiers-monde pauvre, ils imaginent que c'est un pays de fermiers, alors ils sont pas au courant de l'avancement de leur technologie et qu'ils vivent sur une espèce d'hologramme. Mais le truc c'est que dans Avengers 1 et 2, en fait t'as une invasion planétaire qui menace l'existence même de la race humaine, et en fait finalement le Wakanda ne cherche même pas. Là on t'explique qu'en fait le Wakanda n'avait quand même rien à foutre et qu'il faisait très intervenir, alors que la race humaine tout entière était en voie d'extinction, quoi.
Et sur le point d'être décimée, ouais.
Mais dans un sens c'est quand même appréciable aussi, un Marvel qui pour une fois n'essaie pas de raccrocher les wagons avec les autres, de faire de l'œillade aux fans de base en disant et regarde, tu vois, ça c'est la petite référence au film d'avant. Tu l'as pas vu le film d'avant, mais faut que tu le vois le film d'avant. Si tu veux, pour une fois c'est appréciable. Donc le côté déconnecté du Marvel, du MCU dont tu parles, à la limite moi je l'apprécie.
Il est quand même, c'est, on va dire que c'est un Civil War bis, quoi, quelque part. Hein.
Oui,
2.1. Enfin, tu vois.
T'as quand même très très peu de références aux autres personnages. Hein.
Non, bien sûr, mais il a pour base Civil War.
Ouais,
il s'en cache pas.
Et puis toute la campagne, la nouvelle campagne de pub, la nouvelle bande-annonce est censée justement jouer là-dessus, raccrocher les wagons avec le Wakanda en disant regardez, depuis le début, on parlait du Wakanda, mais vous ne le saviez pas. Donc forcément, là, ils essaient de raccrocher les wagons.
Et Ryan Coogler, il apporte quand même, et ça c'est un peu une surprise dans un film Marvel, enfin c'est pas une surprise pour Black Panther, mais c'est une surprise dans l'univers Marvel en général, il apporte quand même une volonté de répondre à un contexte politique, notamment sur le statut de qu'est-ce que c'est que d'être un noir aujourd'hui aux États-Unis, la violence policière, etc. Il amène cette thématique-là, il y a un personnage qui le représente, mais qui incarne cette idée.
Oui, parce qu'il faut préciser aussi quand même que le film, le début du film contextualise, le début du récit, c'est en 1992.
92, ouais.
Donc on sort des émeutes à Los Angeles, parce que ça se passe d'ailleurs en Californie au début.
Ouais, ouais, et ben il choisit de commencer son film par ça. Quoi.
Voilà, pour contextualiser effectivement son récit. Autre chose à rajouter, messieurs?
Mais voilà, moi je trouve que ce discours politique, alors j'étais certain qu'il serait dans le film, et je pense que c'est une bonne chose qu'il soit dans le film. Par contre, je trouve pas qu'il soit toujours amené de manière particulièrement fine ou bien écrite. Et des fois, il y a même des contradictions, c'est-à-dire que je peux comprendre cette réflexion dans le film. Par contre, je ne peux pas comprendre que les habitants du Wakanda appellent. Et à un moment, ils voient un blanc pas pour la première fois, non, mais ils voient un personnage blanc qui est un Américain qui est incarné par Martin Freeman. Et ils l'appellent le colon. Ouais. Et du coup, je comprends pas parce que le Wakanda a choisi de ne jamais se révéler au monde, donc il n'y a jamais eu de colonisation dans le Wakanda. Ouais. Et ils ont choisi volontairement de ne pas intervenir pendant la colonisation des Européens sur les peuples africains. Donc du coup, je trouve que c'est un peu une aberration de mettre ça dans le film, et c'est un peu de la politique à gros sabots, tu vois. Et je trouve que l'idée est là, mais la cohérence n'est pas là du tout, quoi.
Ouais, mais le propos politique de toute façon n'est pas subtil en soi. Quand tu vois les deux antagonistes, donc Black Panther qui va affronter un autre personnage qui a une représentation très symbolique dont on va pas parler ici histoire de pas spoiler, mais c'est pas très fin, si tu veux, la manière dont l'antagonisme entre ce qu'il représente, les deux personnages représentent et montrent, n'est absolument pas fine. Donc c'est de la géopolitique un peu pour les nuls, mais bon, ça avec Marvel on est habitué.
Bah, l'antagoniste est un peu limite dans son traitement, c'est
oui, ouais, pas que lui, hein. Moi j'aurais tendance à dire que même tous les acteurs sont très 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 peu convaincants, à vrai dire. Même
ah ouais, ma déception c'est Angela Bassett. Moi je suis un énorme fan d'Angela Bassett, j'adore cette comédienne, et dedans elle est là,
elle disparaît
à 2 minutes, quoi.
Elle disparaît d'un seul coup, c'est même pas ce qu'elle devient, mais bon voilà.
Forest Whitaker aussi.
Ah bah c'est la Renée Russo de Black Panther.
Ouais, c'est la Renée Russo de Black Panther, exactement. Ah, la peau, hein.
Black Panther, c'est en salle mercredi, c'est réalisé par Ryan Coogler et c'est le 18e film de l'univers Marvel.
Cette mission, c'est quoi?
Du coup, pour étendre un peu plus loin le sujet, Black Panther, qui s'inscrit dans une démarche progressiste du film de super-héros et du blockbuster hollywoodien au sens large, selon vous, messieurs, sommes-nous dans une démarche, dans une avancée sociale ou purement opportuniste? Pour être plus clair, Black Panther, le changement, c'est maintenant, pour l'interrogation.
Toujours citer François Hollande dans les podcasts cinéma.
Alors moi, j'ai envie de dire que le changement, il a déjà eu lieu, bien avant Black Panther, c'était il y a un an sur Netflix, Luke Cage, qui était le premier véritable super-héros Black de Marvel, mais qui a été totalement passé à l'as, en tout cas dans sa campagne marketing sur là-dessus. Et ce qui est drôle, c'est que quand on voit Luke Cage, c'est un héros qui est beaucoup plus significatif, représentatif d'une communauté, de sa culture, que peut l'être Black Panther. Dans Luke Cage pose la question de qu'est-ce qu'être Black aujourd'hui, qu'est-ce qu'être Black dans l'Amérique d'aujourd'hui. Et on a, à travers la culture, la manière de penser, à travers un quartier qui vit et que veut défendre Luke Cage, et toute une communauté qui nous est donnée à vivre et qu'on ne ressent pas à l'échelle de Black Panther, parce que la culture qui est dépeinte dans Black Panther relève plus du folklore qu'autre chose. Je dirais du folklore, totalement.
Ouais, en fait, bon, moi, je suis pas un grand fan de Luke Cage. Je suis pas de toute façon hyper fan non plus de Daredevil ou etc. Les séries Marvel Netflix. Mais au moins, ce que je trouve dans Luke Cage, c'est que c'est une représentation populaire, en fait. Alors que Black Panther, il y a quelque chose qui m'a vraiment gêné, c'est que dans Black Panther, la population noire de Black Panther, elle est absente, il n'y a pas de peuple. C'est un film, il n'y a pas de peuple. C'est un film d'élite. C'est un film de monarque, de fils de roi, de princesse, de généraux.
C'est vrai qu'à aucun moment on ressent vraiment ce que ça implique.
Et en fait, derrière, il construit ce discours politique justement cette avancée sociale que pourrait représenter avoir enfin un véritable super-héros noir sur grand écran pour un grand public et pour toute une génération de jeunes noirs, en particulier aux États-Unis, qui ne se sont jamais sentis représentés.
Oui, ils ont un problème d'identification, ouais.
Voilà, dans les médias. Sauf qu'en fait, c'est un divertissement, je trouve, qui reste en surface là-dessus, et il n'y a pas de population, il n'y a pas de peuple, tout ça, ça vole en éclats, en fait, dès qu'on s'intéresse un petit peu et qu'on gratte sous la surface et sur le polish du film, quoi. Mais perso, ça m'a dérangé, et le Wakanda, son fonctionnement, sa population, ses habitants, ce que ça représente, je trouve que ça fonctionne pas, et ça même, ça n'existe pas dans le film.
C'est vrai. Mais au-delà de cette représentation-là, ce que j'aimerais savoir, moi, c'est, voilà, on sort aussi de Wonder Woman.
Oui, bien sûr.
Voilà, de Wonder Woman qui était soi-disant le film ultime aujourd'hui dans l'ère des blockbusters actuels, qui représentait la femme, qui l'iconisait stylisée et qui lui donnait une stature puissante, etc., etc. Est-ce qu'on peut dire que Black Panther est dans cette même démarche?
Il s'inscrit dans une mouvance déjà, hein, parce que Wonder Woman, Black Panther, donc Wonder Woman, un personnage central féminin à la tête d'une franchise, ce qui était un petit peu du jamais vu. Black Panther, un noir. Ensuite, on va vers Captain Marvel, qui sera encore une femme, si réalisé par une femme aussi, d'ailleurs, je crois.
Peut-être un Black Widow.
Wonder Woman était réalisé par une femme, ce qui a aussi la question de l'accès des femmes au poste de réalisatrice sur des grands blockbusters, ce qui est quelque chose aujourd'hui, ça représente peanuts, hein, malheureusement. Black Panther, c'est Ryan Coogler, qui est aussi réalisé par un noir. Donc évidemment, ce film s'inscrit dans une certaine mouvance. Maintenant, est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on y croit pas? Est-ce qu'en fait, c'est pas aussi un studio qui surfe sur une tendance de la société à progresser pour faire du pognon, quoi?
Oui, et puis on peut, si on reste là-dessus, on pourrait dire que par exemple Civil War était aussi un moyen de tester le personnage de Black Panther, de prendre la température de ce personnage, savoir si le public américain était réceptif à un personnage comme Black Panther avec tout ce qu'il charrie en termes de symbolique. Il y a cette question à se poser. Est-ce que tout est dans le calcul chez Marvel, ou est-ce qu'il y a une volonté sincère aujourd'hui de vouloir s'inscrire dans quelque chose de progressiste, surtout aujourd'hui sous la présidence Trump?
Ce qui est certain, c'est qu'un personnage comme Black Panther et un film comme Black Panther, à mon avis, n'aurait pas pu exister il y a quelques années.
Pourquoi, selon toi?
Je pense pas 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, que un studio...
Parce que les lignes ont bougé?
Ouais, quand même. Je pense pas que 10, 20 ans en arrière, un gros studio aurait produit un tel film, tu vois. En plus, on n'est pas juste dans un héros noir, dans une imagerie vraiment, une espèce d'amalgame de culture africaine, parce que voilà, le Wakanda, c'est un pays fictif qui est un espèce d'agrégat de différentes inspirations africaines. Je pense pas qu'on aurait vu ça au cinéma, en tout cas aux États-Unis.
Nous avons de la flûte, excusez-moi, je digresse, mais nous entendons une petite flûte de pan derrière.
Mais justement, parce qu'on est dans le pipeau, le pipeau total.
Bien vu, c'était le destin. Mais est-ce que, alors je mets les deux pieds, hein, mais est-ce qu'il faut absolument avoir un acteur afro-américain pour réaliser un film de super-héros black? Est-ce qu'il faut avoir absolument une femme pour traiter d'une super-héroïne?
Mais c'est bien que, en fait, il faut que ces gens-là aient leur place, en fait, c'est ça. Ce qu'on remet un petit peu en cause, c'est simplement le résultat, l'authenticité du produit final. Et en fait, moi, il y avait quelque chose qui me dérangeait un petit peu chez Wonder Woman, j'ai vraiment pas du tout aimé Wonder Woman, c'est que je trouve qu'on célébrait un petit peu la mauvaise icône. C'est-à-dire que le combat en lui-même est salutaire, on a besoin de femmes dans le blockbuster. On oublie un petit peu que peu de temps après, il y avait quand même Détroit qui sortait, réalisé par Kate Bigelow, qui est un petit peu la plus grande réalisatrice du moment, quoi, et peut-être une des meilleures réalisatrices de tous les temps, qui est un film qui traite de la cause des Noirs, mais bon, bref.
Catherine Bigelow, bah bien sûr.
Et qui s'en est pris plein la tronche, mais passons. Simplement, on s'est tourné vers Wonder Woman comme cette espèce de grand film féministe et d'incarnation de tout ce qu'on espérait dans le blockbuster avec une femme à la tête. Et en fait, pas du tout. Enfin, je veux dire, on oublie que le film derrière, le film, c'est un navet, quoi. Et on le célèbre comme la plus grande victoire.
Il paraît même qu'il milite pour aller aux Oscars. Enfin, qu'il militait pour aller aux Oscars.
Enfin, Danny Boone a aussi milité pour être au César.
Ouais, bah, il a réussi, lui, en tout cas. Il aura son prix du public, je crois.
Mais le problème aussi, c'est que on aime les films pour ce qu'ils représentent et pas pour leur qualité cinématographique derrière. Pourquoi, effectivement, on aime Wonder Woman? Parce que c'est soi-disant le premier film de super-héros féministe. Pourquoi on aime Black Panther? Parce que c'est le premier film de super-héros black. Et on occulte totalement leur qualité cinématographique derrière.
C'est ça. Quelle sensibilité ils ont, tu vois? On me dit Wonder Woman, c'est réalisé par une femme. Ok, mais quelle sensibilité féminine il y a derrière?
Ça aurait pu être réalisé par absolument n'importe qui. Il n'y avait pas de différence. Le film n'a aucune personnalité dans sa mise en scène.
Hein. Et même Ryan Coogler.
Moi, le regard féminin, je ne l'ai pas senti. Je sens le regard. Pour le coup, je sens le regard du réalisateur nord-américain dans Black Panther. Je ne sentais pas du tout le regard d'une femme dans Wonder Woman. Hein. C'était totalement artificiel. Ça aurait pu être réalisé par n'importe quel tâcheron Yes Man. C'était la même chose pour moi.
Ouais.
Et bon, pour le coup, Black Panther, on sent un regard investi, je trouve, malgré tout.
Oui, peut-être. Ouais. Enfin, je suis tellement abasourdi par le résultat final que, à la limite, je vois même pas le regard afro. Vraiment, réellement, c'est pas. Parce qu'en fait, il parle d'un peuple, d'une mythologie, d'un super-héros noir, mais je vois pas en quoi Ryan Coogler amène une plus-value, en fait, dans le dans le produit fini en fait.
Ouais, sa mise en scène en lui. Ouais,
parce qu'il a metteur en scène, on la sent pas. Hein.
Bah, voilà. Je pense que c'est plus en termes de thématiques qui se ressentent dans tous ces films, en particulier Creed, parce que qu'est-ce qu'ont Creed et Black Panther en commun ? C'est aussi cette idée d'héritage, de qu'est-ce que le fils prodigue va faire de son héritage. C'est justement ça qui a intéressé Marvel pour Black Panther, c'est savoir justement le regard, avoir apposé ce regard qu'a eu Ryan Coogler sur l'affiliation dans Black Panther. Maintenant, le résultat n'est pas à la hauteur pour des raisons qu'on avait évoquées bien avant, mais peut-être qu'au-delà du côté purement on met quelqu'un dans une case, on met un réalisateur black pour faire un film de super-héros black, peut-être qu'il y a aussi l'argument thématique qui est derrière.
Ce qu'il faudra, c'est regarder observer quelles seront les réactions globales, les réactions du public, les réactions de la communauté noire américaine, les réactions de la communauté noire dans le monde. Le truc, c'est que évidemment, en fait, c'est en soi, c'est une avancée sociale quand même assez phénoménale. C'est-à-dire que t'es un jeune noir aux États-Unis, tu lis des comics, 99,9% sont des blancs, et là enfin tu peux aller au cinéma et voir ça. T'es une petite fille, tu vas voir Wonder Woman et tu peux sortir de la salle en te disant mais moi aussi je peux être une super-héroïne, je peux être Wonder Woman. Ça d'accord, mais le truc c'est est-ce qu'on avait vraiment envie que ce combat soit porté par ces films-là? Wonder Woman, je trouve que c'est un navet. Black Panther, non, je trouve malgré tout des qualités. Mais est-ce qu'on espérait que ce soit ça le porte-étendard? Toi, j'en suis pas certain, et je suis pas certain que justement ce soit le bon candidat quoi pour porter le combat. En fait.
Il y a Spider-Man qui arrive aussi à la fin de l'année, le film d'animation Spider-Man.
Oui, et où le Spider-Man sera donc Miles Morales, qui est un noir américain avec aussi des origines dominicaines, si je dis pas de bêtises. Mm-hmm. Donc qui représente deux communautés aussi, la communauté latino.
Qui prend le relais des comics d'ailleurs.
Et pour le coup, qui a un parti pris visuel assez, assez intéressant. Alors on va voir, on a peu d'informations sur le sujet, il y a juste une petite bande-annonce.
Une bande-annonce, ouais. Mm-hmm.
Alors il faut espérer que Marvel fasse le double combo avec Iron Man, et qui est remplacé par le nouveau Iron Man, qui est une femme et qui est black en plus.
Bah ouais. Et il y a aussi la communauté gay aussi, parce que je crois qu'il y a des.
Il y a X-Men.
Voilà, c'est ça,
qui est gay, ouais.
Donc mais après, est-ce que ça ferait un film centré sur lui, ça, ça c'est, je pense que c'est pas demain la veille.
Faut voir.
Bon. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à ce sujet
Mais on peut même dire que finalement Shazam sera incarné par The Rock.
Non, c'est Black Adam qui sera.
Oui, voilà, Shazam, l'ennemi numéro 1 sera The Rock. Donc on a quand même une superstar polynésienne dans la peau d'un héros de comics pour un blockbuster énorme. On avait Cyborg qui était introduit dans la Justice League, qui est aussi un héros nord-américain.
Ah oui, exact.
En fait, on sème des pions. On a Star Wars qui a un personnage de femme et un personnage de noir. Donc, en fait, au final, on sent la progression sociale et malgré tout, il y a pour moi ces porte-étendards qui sont les mauvaises icônes de ces combats. En fait, ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est que des grands réalisateurs. Il faut un blockbuster porté par j'en sais rien, James Cameron, Steven Spielberg, Guillermo del Toro, qui prennent à corps ces sujets-là en fait.
Là-dessus, j'ai rien à rajouter. Pierre parle de Guillermo del Toro, si il y a une filière, forcément, moi je suis client, je suis obligé de dire oui. Donc.
Ouais. Et pourquoi pas un Marvel réalisé par Spike Lee?
Par Spike Lee, j'en sais rien, par Steve McQueen, tu vois. Enfin,
ouais, Steve McQueen, oui, bien sûr. Ouais.
Mais au final, l'héritage cinématographique pur de Black Panther, dans 10 ans, dans 15 ans, tu vois, je suis même pas sûr qu'on revienne dessus.
Quoi. Avec du film, on a du mal à en retenir quelque chose plusieurs jours après, donc j'imagine que.
Ouais. Bon, écoutez, affaire à suivre, hein, messieurs. De toute manière, on va surveiller ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme film là qui arrive Marvel avec justement des soi-disant minorités représentées.
Ah bah on a Captain Marvel.
Captain Marvel.
Qui sera incarné
2019,
par. Qui est incarné par Brie Larson.
Brie Larson, ouais, effectivement.
Donc une héroïne. Et il me semble que le film sera réalisé par une femme aussi.
D'accord.
Sur le coup, j'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble.
Très bien. Bon, bah écoutez, on va surveiller ça de très très près. Bon, et bien voilà, ce premier numéro de Fan Footage, le podcast, est maintenant terminé. Merci Ilan pour ta participation.
Merci à toi, c'était vraiment très sympa.
On te retrouve sur cinevibe.fr.
Tout à fait.
Pierre, à très vite.
Bah oui, à très vite.
À très vite sur Fan Footage. À la semaine prochaine également pour un nouveau film dans un nouvel endroit. D'ici là, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. On attend tous vos retours, c'est très important pour nous. Et vous pourrez nous réécouter sur Séance Radio, sur SoundCloud, sur iTunes et tous les autres agrégateurs. On vous fait de très très gros poutou partout.
Bisous bisous.
Allez,
bisous.
Salut.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
Mom. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.